Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici ensemble donc dans nos habituelles lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Pendant trois longues années encore, qu'elles fussent grises, bleues ou de biscaille, il affronta plus de baleines que n'importe quel autre harponneur. On aurait juré que, sacrifiant un rite qui voulait que deux forces s'opposent, l'une accourue de la terre et l'autre surgit des entrailles, Dieu envoyait au-devant du harponneur des jouteurs de plus en plus féroces. Quand l'issue du combat avait une fois de plus donné raison à l'homme sur l'animal et que, tête vers la poupe, amarrée par des cordes, la monstrueuse prise était disposée le long de la coque du navire, Palestine Northwood s'avançait sur le chauffe-eau pour saluer sa dépouille. Depuis la plateforme de découpage, avant que les écorcheurs ne travaillent avec leurs tranchoirs et leurs pelles coupantes à longs manches, il observait un long silence recueilli. Et puis un jour où la poursuite avait été longue, ce fut la baleine qui triompha. D'un élan de son épine dorsale, en pleine majesté de sa puissance, une femelle de 120 tonnes porta sur son dos la baleinière et ses hommes. Haut dans l'air, elle catapulta l'épave démantelée. Imaginez cet insaisissable éclair du temps, les jets furieux de l'animal blessé, les hampes des harpons sautillant à l'oblique, les rameurs bras déployés dans le ciel orageux et le bond fantastique de la baleine retombant dans une germe d'écume rouge. À part un baquet à ligne à demi vide et la proue de l'embarcation restée intacte, la mer avait tout avalé, l'équipage et la baleine. Seule, elle épargna Palestine Northwood. Mais il resta escarcassé dans l'eau glaciale avant qu'un autre navire de la flotte le trouvât, crampé après trois planches vaillantes qui avaient constitué l'avant de sa barque. Quand on le hissa, il était croche, tordu pour de bon. Jamais plus navigua. Et bossu il resta. Bossu et méchant. Ainsi était Palestine Northwood qui poursuivait farouche ferraille Crowley sur la terre. Une de ces foutues fins de journée maussades, comme farouche avait trop bu, il s'adressait sur la pente du trou rond et il a sorti sa racine entre ses doigts pour faire dans l'eau. Tout en faisant oui-oui sur les quatre fiches, les yeux mauvais, il s'en est pris au vieux. « Qui tu crois de ça, mon cher ?» il a dit à Edius. « Ton projet de m'amarrer avec ta fille est croyable, mais ben formidable aussi !» Popraquin a plissé les yeux sur l'outlaw pendant qu'il remontait ses pans. « Répète un peu ça, s'il te plaît, » il a demandé avec une nuance de colère rentrée. « Pour bien dire, farouche, t'as l'air de croire que je t'ai menti. » Crowley s'est approché du cultivateur. Il avait une mauvaise bouche, pas dans le sens de son visage. Il a dit comme ça, « À force d'être seul, j'ai commencé à jongler, Pop. Une idée qui me revient souvent. Tout ce que tu me racontes, c'est peut-être juste des charades. » Le menton d'Edius a pris des proportions notables sur son nez, preuve qu'il bisquait sous l'orage. Qu'est-ce que tu veux dire, ferraille ?
Ta fille ? Bah, t'en as peut-être pas, mon cher, ou alors c'est un rêve ?
Oh, j'en ai une, all right ! C'est la plus belle guêpe d'ici, la plus fine de taille et la plus hardie en parole.
Alors tout va bien ?
Non, alors tout va mal.
Elle veut pas regarder les hommes comme toi.
Le grand bandit du Texas s'est éclaté de rire sous le nez du vieux Cadjin. Alors Edius s'a levé vitement sur ses mollets de kiddie. Il était vexé, forcément. Il a dit, très chocatif,
« Je crois bien que je vais gone pour aujourd'hui. »
Il a ramassé le fil de sa ligne, l'a bobiné en travers d'une petite branche à deux fourches et a rajouté « Il faut bien que je retourne voir ma chère femme si je veux pas l'affliger. Elle comprend pas si je la néglige. »
Il disait ça manière d'asticoter l'autre.
Farouche Ferraille a craché son cigarillo éteint dans l'eau du marais rond. Il a retiré ses pieds de la flotte, enfilé ses bottes et il a répondu « Fume encore une petite cigarette, vieux, et je te dirai quelque chose. »
Popraquin a froissé les pliures de son front.
« À condition de ne pas avoir à la rouler, » il a répondu avec l'air ennuyé. Il pensait à son witch en rapport avec ce fumier de général Butler, un serment plus qu'à moitié parjuré par la faute de son amitié stérile avec un pilleur de banque.
Son regard a dérivé sur la construction des nuages.
« D'ici demain, il va mouiller, » il a annoncé, pour se revenger. « Après ce refroidissement de la terre, ça pourrait bien être l'automne. »
Les yeux de Farouche Ferraille l'ont rejoint sur le carré de ciel noir. Une volée de canards chevaux s'avançait vers le sud. Farouche a fait plier plusieurs fois son bras. Il a tiré de sa poche sa bourse à tabac. Il a dit
« Après les derniers orages, je veux ride away. Je veux pas rester ankylosé dans un fond humide comme ici. »
Popraquin s'est dressé sur ses pattes. Il était manière contrarié.
Bah, « Si tu sors le nez de ce plantain, fils, t'es graissé comme un flingot. Tu vas repartir dans tes tuages. Et ça finira mal. »
C'est mon cheval bronque qui me fait chagrin, Pop. À force de pas courir, c'est une braise qui s'éteint.
Puis il coûte trop cher d'ennui à Mlle Grandois.
C'est pas la vérité, ça, c'est pas la vérité que tu me dis là.
La vérité, dit Crowley, c'est que j'y peux rien. Je suis foncièrement mauvais. Ça, c'est ma pente. Alors, je veux gone avant de commettre l'irréparable.
Le vieux l'a fixé dans ses yeux blancs.
Des bêtiseries, t'as des bêtiseries derrière la tête, il a demandé.
Farouche lui a tendu sa cigarette.
Peut-être plus que tu crois.
Et avec vous autres, ça me plairait pas.
Et Dieu s'est baissé la tête. Il a dit, fataliste,
« La vie est un jeu d'ombre et de lumière. Quand je t'ai vu arriver au fond de ce plantain, j'ai pensé, une main lave l'autre. Si je reste avec lui, ce gars-là va se redresser. Sûr que je m'étais trompé. »
Il a pas pris la cigarette que l'hôte lui tendait. Il a reviré sur ses talons et s'est éloigné tout de suite. Il avait une mèche de rancœur allumée au fond de lui, une difficulté à respirer comme si un gros lutteur de la baraque de foire à Mamou s'était assis sur ses poumons.
Farouche Ferraille ne l'a pas retenu. Il a baissé la tête dans ses épaules qui remontaient.
Il a craché dans le marais rond.
À la lune nouvelle, la saison avait commencé à tourner. L'air était plus humide sur l'étendue de la prairie molle, mais Farouche Ferraille avait toujours pas ride away.
On s'était avancé aux portes de l'automne. Un vol d'oie farouche s'était abattu sur le marais rond.
Les deux hommes avaient cessé de se fréquenter, et Dius ne venait plus chaque après-midi se radier au soleil ni partager en bonne ordonnance ses heures de compagnonnage au bord de l'eau. Plus de moonshine, plus de tabac, plus de joserie, plus de bamboche. Désemparé par ces moments inhabités, farouche ferraille remettait ses jambes dans celles du vieux. Il refaisait son parcours jusqu'à la ligne du sentier, s'immobilisait là où apparaissait d'habitude le rebond de son chapon de paille, guettait au-dessus des herbes. Ou bien, comme le chien revient à son vomissement, devenait assez sot pour retourner sur les lieux de leur temps heureux. Il s'affalait au bord de la mèche, ôtait ses bottes et mettait ses pieds à rafraîchir. Autrement, c'était pire. Il errait jusqu'à la pirogue, s'assoyait sur l'écorce du bayou et tirait des caniques de boue séchée dans l'eau. Et s'il garrochait pas, il marchait droit devant lui, c'est ça. Il comptait ses pas à rien faire. Un jour, il avait même oublié d'aller fitre son étalon. Il ne portait plus ses éperons. Ça ne l'empêchait pas de guetter, mais il portait plus ses racachas. Peut-être qu'il était trop sédentaire. Il restait seul le soir à la brune, faisant son feu, naviguait loin sur les étoiles et passait son temps à vider le ciel avec un baril défoncé. Parfois, il marchait jusqu'au renforcement du bois où Azeline venait se cacher chaque après-midi. Il restait debout comme un poteau fanal planté devant la futaie dont les érables s'empourpraient. Il inspectait le sombre. Jamais il ne s'aventurait plus loin que la première ligne des arbres. Jusqu'à cette nuit plus fraîche, où en trois enjambées il gagna le couvert et se coucha sur le nid qu'avait creusé le corps de la petite Azeline. Enroulé dans sa couverture, le grand farouche s'était mis à claquer des dents. Il tremblait d'avoir peur de rester. Il était malade de sa sauvagerie. Il était seul. Vraiment lonely. De l'autre côté, chez les raquins, c'était des temps mêlés de violence. À la piquette du jour, Edius partait au champ avec son bœuf d'eau blanc et accomplissait quoi c'était son ouvrage du moment. Il trichait pas avec la terre. La graffinait pareil qu'avant d'avoir rencontré le grand bandit Crowley, piochait, récoltait, rentrait le maïs pour faire le couche-couche. Avec tout l'entêtement dont il était capable, le vieux cultivateur avait décidé de retourner à sa maîtresse délaissée, à la terre qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Pour le lui prouver, il lui faisait une grande célébration de travail. Il halait en quelques heures la totalité de son ouvrage, crevait son corps dans des efforts répétés, préférait consumer sa chair et sa peau à la tâche plutôt que de repenser un seul instant à son amitié déçue. Il s'acharnait donc, courbé, têtu, bouseux, repassait dans les rangs de maïs, s'enfonçait dans le sol avec toute la volonté qui va, dévouait ses forces au gigantesque accouchement de la terre. Mais si fort qu'était l'orgueil de sa résolution, jamais le solde du contentement de soi n'était au rendez-vous.
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, y a de l'eau des rochers.
de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'homme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de rêve, un jour cesseront d'user les planchers, peut-être cette semaine. Moi mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers en préfèrent les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers, si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revoici de nouveau avec le roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, après cette habituelle pause musicale. Farouche ferraille Crowley était restée vissée au fond du platin. Cécile n'était pas recouverte par la poudre des chemins, ni blanchie par l'écume la bouche de son grand bronque. Pas d'arme au bout du doigt, pas de juque au plombeau, pas de passage de guet. Au fond d'un obscur défilé, l'homme aux yeux d'ardoise ne cheminait pas sans force devant qui le chassait. Au contraire, Crowley la légende s'était installé dans des habitudes de swamper, menant la vie rude des coureurs de bois. Il entretenait son linge, il raccommodait ses hardes, il chassait pour manger. Comme son désir de sécurité lui interdisait de tirer le moindre coup de feu, chaque matinée était dévouée au piégeage. De plus en plus souvent, il se nourrissait d'un lapin, parfois d'un écureuil. Et le vieux Hip était monté d'un cran dans la clique des importances. Il avait un rôle pour la chasse, un autre pour la garde. De temps en temps, Farouche Ferraille grimpait sur un arbre pour vendanger au bout des lianes une sorte de vigne sauvage. Il cueillait des guirlandes de graines de soco blanc dont il tirait un jus au goût savoureux. Il stockait le raisin ainsi amassé dans un vieux baril récupéré sur une île du Bayou et envisageait de laisser fermenter sa récolte pour en faire du vin. Mais l'élan de la journée ne débutait véritablement qu'avec la discrète arrivée d'Azeline. Annoncée par la piaillerie des jets, la petite s'acheminait par le couvert. Farouche ferraille épiait sa robe bleue au travers de l'entremêlement des taillis et des fûts. Par glissement et hasard, il s'évertuait à suivre sa progression prudente. Comme en une série de battements d'ailes furtifs qui s'accordaient à la vie secrète des oiseaux, la jeune fille gagnait par envolée et branchage subi le nid qu'elle s'était construit. Dès lors qu'elle avait rejoint son poste d'observation, Farouche Ferraille Crowley accomplissait pour elle la mascarade qu'elle semblait attendre de lui. Cédant aux règles de l'étrange jeu né de leur relation peu orthodoxe, il s'arrangeait pour ne pas sortir du champ de sa vision. Il lui fallait être suffisamment perspicace
pour proposer à sa passagère clandestine l'illusion d'un déroulement habituel de ses activités. Il voyait donc à l'avance l'endroit où il se mettrait à tresser une babiche de cuir à tour à brin, ou confectionnerait une table destinée à improuver son confort. Avant que les pluies d'automne ne s'installent, il avait mis à sécher de la mousse espagnole tout au long de son camp, ceinturant les fardoches d'une guirlande de crêpes usées comme des guenilles. La barbe à l'espagnole décomposée par le temps prenait l'apparence de longs fils noirs et ourlait la nature d'une lugubre atmosphère. Farouche ferraille cremelait, tillait le crin végétal, le nettoyait, si l'on préfère, l'épurait, le cardait, l'étirait, ressemblait en tout point à quelque patiente araignée occupée à établir le réseau de sa toile. Jamais, pendant la succession de ces jours mystérieux, il ne donna à croire à sa ravissante embusquée qu'il avait décelé sa présence. Les jeunes gens entretenaient d'étranges rites. Ainsi, Farouche Ferraille avait pris l'habitude de faire ses ablutions devant Azeline. Il se campait non loin de la grotte de verdure où s'allongeait sa presque femme et lui donnait le spectacle de ses muscles noueux, de son corps aguerri et de ses parties génitales. Ensuite, le torse et les fesses encore luisants de la caresse de l'eau, il faisait mine de rebrousser chemin vers son camp. Pour peu que la jeune fille remuât imperceptiblement, il lui donnait à revivre l'émotion de la crainte. Il pivotait sur lui-même en dégainant. La divette sursautait, réprimait un cri de terreur. Elle n'avait toujours pas pris l'habitude de son revolver braqué dans la direction de son ventre. Elle s'obligeait à rester coite, fermait les yeux s'il fallait fuir en elle-même, ou bien s'obligeait à rouvrir graduellement les paupières. Elle voyait alors Farouche revenir avec lenteur et gravité sur ses pas. Il donnait l'impression de revivre un cauchemar, de célébrer une fois de plus la liturgie d'une rencontre virtuelle et sans cesse différée. Il s'immobilisait devant l'écran végétal et le sondait interminablement, allant jusqu'à poser son regard pointu sur l'oiselle apeurée. Elle se laissait traverser par le pouvoir fascinateur de ses yeux. Elle acceptait maintenant de les rencontrer. Sa chair était saisie par un frisson. Elle se sentait comme poussière et cendre. Puis doucement, il la quittait. Il adoptait l'attitude de celui qui ne l'avait pas vue. C'est cela. Il la contemplait. Il lui souriait. Mais il ne la distinguait pas. Et longtemps après son départ, les joues d'Azeline restaient rouges comme des moitiés de grenade. Le temps passant, leur jeu avec l'invisible devint intolérablement mystique. Un de ces après-midi brûlants où le soleil refuse de céder au déclin de l'été, Farouche Ferraille prolongea sa toilette plus longtemps qu'à l'accoutumée. Comme il se tournait vers elle, Azeline découvrit l'arc de son pénis dressé vers la lumière. La jeune fille n'avait jamais vu sa racine autrement qu'au repos. Le spectacle de cette rudesse ferme et battante aggrava le désordre de ses sens. Partagé entre attirance et répulsion pour ce dard à l'œil cyclope, pour cet emblème de la vie qui se transmet, elle laissa défiler devant le pays de ses pensées des images où la honte le disputait à l'obscénité. Puis persuadée que c'était elle la pillarde d'une intimité où n'avait cours ni le cynisme ni l'abjection, elle sentit monter dans l'arceau de son corps une étrange convulsion de sentiments partagés. Ils allaient de la terreur inspirée par la menace de ce marteau de sang noir jusqu'à la fulgurante envie de le mutiler par le manche. Au moins, suggéra une folie intérieure dont la maîtrise lui échappait à mesure que s'enfiévrait son esprit, au moins qu'elle ne se contenta de neutraliser la rusticité arrogante, en l'enfermant dans sa poigne vibrante de sa menotte dans la chaleur doucereuse. À moins qu'elle ne conduisît son rut au pas qu'elle aurait choisi, menant l'animal dompté par ses stratagèmes jusqu'à la ruelle de son ventre, jusqu'à la membrane de son tambour. Azeline était sur le sentier de l'aigle dans les cieux. Elle ne put refréner l'ondoiement chatoyant d'une chaleur parfaite qui s'appropriait son propre ventre. Elle céda alors à la plus hasardeuse des attitudes. Entrepris de se caresser à petits cercles en promenant au creux de soi les boucles de son doigt qui montrent. C'est ce jour-là que Ferraille s'approcha au pruplet d'elle. C'est la première fois qu'il entendit Azeline gémir de plaisir. C'est le lendemain qu'il sortit son coutelas de sa poche. Face à la grotte de verdure, utilisant le regard de la pucelle comme une glace sans teint, il rasa à grands traits et coupures les broussailles de sa barbe. Puis, galopant devant lui à toute éreinte, il alla se poster au ras de l'habitation Raquin, près du jardin de roses cultivé par Basel. Et un quart d'heure plus tard à peine, il bordait Edius, qui retournait de ses champs. Ça me fait trop zire que nous soyons fauchés, dit-il, d'une traite au vieux agriculturiste. Et si tu veux encore m'accepter, je te donnerai le coup de main pour rabourrer tes clos. Au premier coup d'œil, l'hôte sacré Sagouin vit que Farouche Ferraille avait déshabillé son visage de tous ses poils. Il connut ainsi qu'il avait partie gagnée dans cette affaire de bras de fer au bonheur. Il pensa que l'offrande du sang qui avait coulé les joues du brigand était comme un jour de fête. Mais il ne proféra pas un mot, il cracha sa salive dans le trou de boue d'une fissure de la route et attendit le temps qu'il fallait pour que le silence paraisse long. Farouche Ferraille finit par gigouiller sur ses grandes jambes. Autant dire que je suis tombé en amour avec ta fille, vieux, avoua-t-il, et je veux bien essayer de rester. Pop Raquin pointa un regard du côté de son habitation. La cour était déserte. La façade blanchie de l'écurie, en partie masquée par la silhouette des lilas parasols, était étincelante comme du sel. De très loin, des bruits affaiblis parvenaient aux deux hommes, des sons trop assoupis pour les inquiéter. « Oh, man !» finit par grommeler Edius entre ses dents. « Je suis surcontent que t'aies trouvé de l'eau sur la lune. Mais si t'es pas assuré de vouloir vivre ici pour la balance de ta vie, ça sert à rien que t'aimes ma fille seulement pour 2-3 jours, elle voudra pas. Et moi non plus. » « Je resterai, » promit Farouche. « Ben, ça suffit pas encore, » répliqua Edius. Il avait ses yeux mauvais en boutons de culotte. « Si tu veux marier Azeline, il faut me prouver d'abord que t'as du foin dans tes bottes. » Comme le grand cow-boy voyait pas où il voulait en venir, le vieux bougre s'approcha contre lui. Il tapota avec son index près de la poche de gousset de son gilet, là où Farouche serrait la précieuse montre qui le quittait jamais. Les autres prétendus qui se sont déclarés, ma femme Basel et mon, on leur demandait d'avoir du bien. Toi, tout ce que je veux, c'est de la moralité. Je veux croire que t'es fiable, là. T'as compris? Alors je vais te mettre à l'épreuve, garçon. Tu vas plus reluquer Azeline derrière sa broussaille pendant un mois. Arrêt 30 jours sur toutes vos macaqueries d'après-midi. Tu nous as espionnés ? Le vieux tigre haussa les épaules. Bon, fils de putain, j'ai rien forgé, c'est pas chrétien toute votre micmac. Farouche ferraille aurait voulu plaider. Au lieu de ça, Edius s'est mis à crier à pleine tête. Il possédait plus la force de son langage. « Tonnerre de Dieu, tu la revois plus ! Je vais l'éloigner, c'est ça, c'est dit. Et commence pas à me cailler, Mr. Big Shoot !»
Edius, son sang s'était retiré de son visage. Pour peu, il aurait pris Crowley à la palette, lui aurait allongé une gnôle dans le dieu ou bien fendu le biscuit. Farouche Ferraille était devenu très pâle. D'une seule pâtée de sa large main, il aurait pu écraser le Bassette ou Maigrichin qui lui dictait sa loi.
Mais quoi ?
L'homme chétis soutenait son regard blanc. Dieu faisait banquette avec lui. C'était eux qui donnaient la chanson.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir et... cette semaine, donc la suite de ce roman de Jean Vautrin, Le grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons encore, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.